Donc ce matin, on a vu les différentes sources de difficultés à l'intérieur du couple et de la famille. Et c'était peut-être un peu difficile d'écouter ça parce que c'est vrai que ça met le doigt là où parfois il y a des souffrances. Et pardon si j'ai pu réveiller telle ou telle souffrance, mais on l'a vu aussi, le médecin pour guérir a besoin de savoir où ça fait mal, et le médecin qui est Jésus, le médecin de nos âmes, pour appliquer aussi la grâce qui est un salut et qui est un remède, a besoin qu'on lui présente dans notre prière les lieux de souffrance. À présent, on va voir plus cette réconciliation dans la famille, un peu comment l'opérer et comment un peu la comprendre. Donc ce sera cette deuxième partie face à l'énoncé ce matin des différents lieux de souffrance. Maintenant, le chemin de la réconciliation dans la famille. Tout d'abord, ce qui convient de dire, c'est que le mot réconciliation vient de clarté. Et j'étais assez content quand j'ai découvert justement l'étymologie de ce mot que je ne connaissais pas en cherchant dans le dictionnaire étymologique. Ça vient de clarté, c'est-à-dire, et ça nous aide aussi, c'est faire la lumière sur tel ou tel aspect de notre vie. Parce qu'évidemment, dès qu'il y a une zone de souffrance, il y a souvent une zone d'ombre, une zone de repli sur nous-mêmes, une zone où la lumière du Seigneur, puisque c'est dans la foi aussi que nous voulons vivre ce chemin de réconciliation, la lumière du Seigneur ne pénètre pas. Donc réconcilier, c'est rechoisir la lumière. C'est redire oui à cette parole du Seigneur qui est lumière. Et demander dans notre prière que ces ombres, ces ténèbres ou ces violences qui peuvent naître de la souffrance puissent peu à peu s'estomper. D'abord, la réconciliation, c'est aussi répondre à une demande explicite de Jésus dans sa prière au Père, avec à la fois l'obligation de la correction fraternelle se rattache l'obligation du pardon. C'est la cinquième demande du Pater. Et très certainement, ce pardon réalise, au fond, ce que Jésus est venu accomplir sur notre terre. Réconcilier l'homme avec Dieu. Et il l'a réconcilié dans sa propre chair. Il l'a réconcilié par sa croix. Il l'a réconcilié par sa passion, sa mort et sa résurrection. Et donc c'est nous appuyer aussi sur la réconciliation qui est déjà opérée. Vous savez que en théologie, on manie deux aspects qui sont intéressants, c'est le déjà et le pas encore. Déjà la réconciliation est opérée, déjà la communion, et elle est là, elle est désirée dans le cœur de Dieu. Et c'est important de s'appuyer sur cette communion, sur cette réconciliation, pour aller à la rencontre de l'autre et lui redire « je t'aime » ou je lui redire « je t'accepte tel que tu es ». Mais donc ce n'est pas simplement sur nos propres forces que l'on s'appuie, mais si elle est déjà réalisée, elle n'est pas encore dans la plénitude. Et c'est pour ça que l'on est en attente, c'est pour ça que l'on est en aspiration, en état de désir de voir la réconciliation opérer dans nos familles et dans nos vies. Mais elle est déjà là, et ça c'est bien de partir de ça, c'est le déjà et le pas encore, cette tension qui fait que le chrétien ne baisse pas les bras, ne désespère pas, parce que le Christ est déjà vainqueur, il n'est pas dans la plénitude, si l'on peut dire, où tout sera soumis à la fin des temps, tout sera soumis à l'amour du Christ, et tout le Christ révélera le cœur de chacun. Cette réconciliation, aussi, il est important de dire que, et parfois on a des mauvaises interprétations, on dit par exemple que pardonner, c'est oublier. Et ça, c'est tout à fait faux. Il ne s'agit pas d'oublier la souffrance que l'on a reçue ou la souffrance que l'on a causée. Dieu ne nous veut pas amnésiques. Au contraire, il veut que nous fassions mémoire de cette miséricorde du Seigneur qui est venue à notre rencontre. Et j'aimerais bien prendre avec vous l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 18, 21 à 35, Cet évangile, je ne vais pas le lire dans son intégralité, ce serait trop long, mais vous vous rappelez hein, cette demande de Pierre qui s'approche de Jésus pour lui demander « Seigneur, quand mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ?»« Jusqu'à 7 fois, lui répond Jésus. » « Mais non, je te dis jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » En effet, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Et il reprend la comparaison d'un serviteur qui devait une somme colossale à son maître, et il le supplie, etc. Il obtient le pardon de ses fautes. En sortant de chez son maître, ce même serviteur attrape à la gorge un de ses amis qui lui doit presque rien en comparaison de la dette que lui devait à son maître, et il le mène en prison. Et Jésus, de conclure, « C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Alors, non seulement le pardon, il est fait pour cette terre, mais d'une certaine manière, il a à voir aussi avec l'éternité. Hein, et c'est parfois cette dureté de cœur que nous entretenons, hein, qui ne sont pas de Dieu et surtout qui ne proviennent pas d'une contemplation suffisante de l'amour de Dieu pour nous. Parce que, au fond, et c'est ce que nous avons dit au départ, il ne s'agit pas d'oublier, mais bien au contraire, de faire mémoire de cet amour du Seigneur, de faire mémoire de ce pardon du Seigneur. Nous sommes les débiteurs, comme ce mauvais serviteur qui devait 10 millions de pièces d'argent, c'est-à-dire une somme absolument impossible à rembourser. Nous sommes dans cette attitude-là face au Seigneur. Et c'est en contemplant d'abord nos propres difficultés, notre propre dette, que l'on peut s'approcher avec miséricorde hein, de la misère et de celui qui nous a fait souffrir. Donc, c'est important d'avoir cette attitude et de refaire mémoire régulièrement. Et au fond, chaque fois que l'on célèbre et que l'on participe au sacrement de la réconciliation, on refait mémoire de cet amour miséricordieux du Seigneur qui nous pardonne. Hein, et même si c'est la 10e fois, non pas 7 fois, j'ai dit Jésus à Pierre, mais je t'ai dit 70 fois 7 fois, c'est-à-dire un nombre infini de fois, cet amour de miséricorde, qui ne va pas non plus sans une correction fraternelle, je le disais au départ. C'est vrai que la correction fraternelle, c'est-à-dire que une première étape de la réconciliation pourrait aussi consister en une certaine vérité, de dire, faire la vérité, de dire, écoutez, il y a ça qui ne va pas. Donc la miséricorde, elle n'est pas complaisance avec le mal. La miséricorde est invitation à renouer le lien avec l'autre, mais en même temps, invitation à grandir et à la conversion. Et ce serait se jouer de la miséricorde du Seigneur, et c'est un péché extrêmement grave, que de dire, mais de toute façon, hein, il pardonne et donc je fais ce que je veux. Au contraire, le pardon et la miséricorde que Dieu nous donne dans le sacrement nous engagent à une conversion intérieure si elle est vécue avec profondeur. Alors, cette réconciliation, donc, elle se fait aussi par des gestes. Elle se fait par des gestes concrets qui fait que, au fond, à travers ces gestes, il y a un signe de l'amour du Seigneur qui est révélé. Ces gestes concrets, qu'est-ce que ça peut être? C'est d'abord, et le Saint-Père, le pape Jean-Paul II, en parle dans son exhortation apostolique, hein, la réconciliation et la pénitence, il parle d'un des moyens de réconciliation, en plus de la catéchèse et des sacrements de réconciliation, il parle du dialogue. Et c'est vrai que faire ce geste du dialogue envers celui qui m'a fait souffrir, c'est très impressionnant, justement, ça. C'est, au fond, revoir l'autre comme une personne. Parce que la souffrance que nous a causée l'autre fait que notre regard qui est posé sur l'autre n'est plus pur et on ne le voit plus dans sa beauté de personne. On n'arrive plus à le voir parce que, à la limite, on ne voit plus que le mal poussé à l'extrême, on ne voit plus que le mal en lui, et dès qu'on le voit, dès qu'on entend parler de lui, dès que le souvenir vient à notre mémoire, eh bien, c'est parfois un frisson intérieur qui nous saisit, parce qu'on n'a pas redécouvert l'autre comme une personne. Je peux aussi vous donner un petit témoignage personnel à travers mon ministère comme aumônier de prison en Amérique latine durant des années, où cette question de la réconciliation, vous imaginez, était tout à fait présente dans mon cœur et présente dans mon ministère. Parce que être au service des prisonniers, c'est être au service de personnes qui ont fait le mal, qui ont cassé des vies, hein, qui ont vraiment eu cette attitude de briser l'autre, parce que bien souvent eux-mêmes ont été brisés. Et j'ai la profonde conviction que une des sources au fond de la diminution de la délinquance et une des sources des remèdes à la délinquance, c'était précisément la rencontre entre l'agresseur et l'agressé. Et que chacun se redécouvre comme personne. Ce que l'autre m'a fait ne le définit pas entièrement. La souffrance que j'ai connue, que je vis peut-être en ce moment, ne me prend pas toute la place de ma personne. Vous voyez, donc c'est au fond relativiser à la fois le mal et à la fois la souffrance que l'on a, mais relativiser parce que j'ai ce regard au fond contemplatif face à l'autre qui me fait redécouvrir l'autre comme une personne humaine. Donc le dialogue, ce dialogue, ce geste qui du dialogue, de la rencontre, qui va faire comme démarrer aussi un processus de réconciliation qui va prendre du temps, et ne nous surprenons pas si ça prend du temps. Et dans ce sens-là, il y a un certain, une certaine humilité à avoir dans nos réconciliations. Parfois on souhaiterait que tout soit immédiatement parfait, que l'amour recircule entre nous, que l'on puisse s'embrasser, que l'on puisse se redire tout comme avant. C'est pas si simple. C'est pas si simple. On fait ce qu'on peut en la matière. Et le christianisme plaide aussi pour une certaine réconciliation, une certaine modestie dans la réconciliation. Et parfois, c'est pas l'idéal, mais se résigner au fond qu'à ce que certaines étapes simplement de cette réalisation, de cette réconciliation soient franchies, mais que au fond il y a quelque chose qui n'est pas accompli sur cette terre et qu'il nous faut au fond désirer plus ardemment la terre nouvelle, les cieux nouveaux où Dieu sera tout en tous. C'est de même l'amour que nous portons à l'autre, parfois on aimerait aimer plus déjà le Seigneur, on aimerait aimer plus son conjoint, on aimerait aimer plus ses enfants. Eh bien, ce manque d'amour, les petits manques d'amour, les grands manques d'amour que nous constatons dans notre vie sont des appels, au fond, à vivre cette éternité. Donc, nous prêchons aussi une modestie dans la réconciliation, de façon à voir dans ces signes comme des signes avant-coureurs de la réconciliation plénière quand Dieu sera tout en tous. Mais ce qui est aussi important de souligner, et c'est un autre point dans la réconciliation, c'est que, au fond, réconcilier, c'est faire que ce qui nous séparait antérieurement, maintenant nous unit. C'est ça, profondément, réconcilier. Ce qui nous séparait antérieurement, ce qui nous faisait souffrir, ce qui m'a fait souffrir, devient cause de lien, de rapprochement, devient cause de communion avec l'autre. Évidemment, l'exemple magnifique, c'est Jésus qui l'a donné sur la croix. Ce qui nous séparait de Dieu, c'est-à-dire le péché, la désobéissance face à la parole du Seigneur, ce qui nous séparait du Seigneur, Jésus l'a pris sur lui, et a fait qu'il y a une plus grande communion maintenant avec la réconciliation que le Christ a opérée que si il n'y avait pas eu de désobéissance originelle. C'est ce qui fait dire au fond cette belle parole durant la nuit de Pâques dans l'Exultète, cette belle parole, bienheureuse faute qui nous a valu un tel Rédempteur. On s'aime plus après la réconciliation que s'il n'y avait pas eu de dommages causés à la relation. Alors vous imaginez, ce n'est pas qu'une question psychologique. Là. À ce niveau-là, c'est vraiment dans la foi. C'est vraiment expérimenter cet amour de charité. Et Jean-Paul II en a donné un exemple magnifique lorsqu'il est allé à la rencontre de son agresseur, Aliaka, hein, et qui lui a parlé et qui lui a peu à peu redonné confiance et qui lui a pardonné. Ce qui nous séparait, maintenant, nous unit. Et ça, Aliaka, au fond, ne pourra jamais oublier cette rencontre avec l'homme qu'il a blessé et qu'il a handicapé parfois pour le reste de sa vie, parce qu'il a fait l'expérience de l'amour du Christ dans une personne humaine. C'est pour ça qu'il n'y a pas de processus de réconciliation sans une profonde vie de prière. C'est pas simplement dans nos forces, c'est pas simplement une question de caractère, c'est pas une question de méthode couée, de se persuader, c'est pas de dire qu'une d'amnésie ne s'est rien passé. Non, c'est supplier la grâce. Et dans ce sens-là, la réconciliation nous rappelle que c'est un don et une grâce du Seigneur que nous devons supplier les uns pour les autres, que nous devons supplier pour ceux qui nous ont blessés, et on a vu toutes les différentes stades de la blessure, que nous devons supplier aussi pour nous-mêmes, parce que nous sommes parfois pour nous-mêmes nos propres artisans de souffrance. Et donc, ça nous redit cette urgence, au fond, de revivre la réconciliation comme un don, de façon à cicatriser la plaie. Parce que si nous n'accédons pas à cette réconciliation, qu'est-ce qui se passe ? C'est que la plaie causée par la blessure va continuer à saigner. Le mal que nous avons reçu ou le mal que nous avons donné va continuer à nous ronger. Et c'est ça, c'est la réconciliation, le mal est stoppé par le bien. Le mal est stoppé par un acte d'amour. L'effusion de sang et de souffrance est stoppée par un pas vers l'autre. Et c'est dans cet acte de foi vers l'autre, dans cet acte de réconciliation que seul le Seigneur peut donner, encore une fois, ce n'est pas notre propre volonté et nos propres forces, même si c'est notre liberté qui est engagée, on ne peut pas se réconcilier si on ne veut pas, mais c'est dans cette grâce et dans cette certitude de la grâce que l'on peut commencer sur ce chemin. Déjà, le Seigneur agit, et il agit à chaque étape de la réconciliation. Mais aussi, c'est penser que cette réconciliation, ce pardon, est attaché à une béatitude. C'est la béatitude des miséricordieux, la béatitude de ceux qui font miséricorde. Bienheureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. C'est-à-dire qu'on vit quelque chose du ciel en pardonnant, parce que c'est ça la béatitude. La béatitude, c'est vivre le bonheur comme on le vit en Dieu. C'est vivre le bonheur de Dieu lui-même. Et les béatitudes que le Seigneur prononce au moment du sermon sur la montagne sont les différentes manières, les différentes portes d'accès au bonheur que le Seigneur nous appelle à vivre. Alors, c'est aussi une invitation à travers cette béatitude à contempler, au fond, la première des béatitudes, qui est la béatitude des pauvres. Bienheureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux. Alors que les autres béatitudes sont au futur, la béatitude des pauvres est au présent. Il est à eux. Ça veut dire quoi ? C'est que c'est au fond la porte de toutes les autres béatitudes, la pauvreté intérieure. Et c'est vrai que pour la réconciliation, pour la miséricorde, c'est d'abord cette attitude d'humilité, on disait, face au Seigneur, de savoir qu'on est, nous, débiteurs face à Dieu et que Dieu nous a pardonné maintes fois, mais aussi d'humilité face à l'autre et de cette humilité mutuelle, si possible. Parce que c'est là que réside la difficulté de la réconciliation, c'est qu'il faut que ce soit aussi la rencontre de deux libertés qui choisissent la communion à nouveau, alors que la souffrance avait cassé le lien et la blessure avait ouvert une plaie. Donc, cette attitude de pauvreté, et je pense dans le couple en particulier, parfois c'est là où c'est le plus difficile à vivre, parce qu'évidemment c'est avec des personnes que l'on aime que c'est souvent le plus difficile à vivre, hein, et qu'on est souvent le plus blessé. Mais si vous vous mettez, mari et femme, hein, face au Seigneur, dans une attitude d'humilité, tous les deux, je dis que tout est possible, tout est possible. Même les plus grandes blessures, même les manques de fidélité, même tout ce que l'on a pu évoquer ce matin et qui vraiment cause des difficultés dans la famille, même ça, mais rien ne peut faire obstacle à cette réconciliation si vous choisissez comme couple, ensemble, de vous mettre à l'écoute du Seigneur et de dire, nous sommes des pauvres types, tous les deux, toi, moi, eh bien, on ne sait pas s'aimer. Et puis, on va demander au Seigneur sa grâce. Et on va le supplier jusqu'à ce que nos cœurs s'ouvrent. Et on est des pauvres, parce que le pauvre, hein, c'est celui qui a besoin, hein, de l'autre pour vivre. C'est ça la définition aussi du pauvre. C'est non pas tant celui qui n'a pas que celui qui ne peut pas, le pauvre. Il ne peut pas, et on est pauvre dans la réconciliation parce qu'on sent que notre sensibilité a été heurtée et on ne peut pas parfois aller à la rencontre de l'autre, le regarder dans les yeux. On a du mal. Et c'est vraiment dans cette attitude d'humilité qu'il y a une possibilité de réouverture de lien. Mais la question, et je vois un peu dans les séparations de couple, hein, quand malgré tous les efforts que l'on peut faire et toutes les prières que l'on peut invoquer, les époux décident de se séparer, c'est bien souvent qu'il n'y a pas eu d'une part ou d'autre, ou des deux parts, cette attitude d'humilité suffisante, cette attitude de profonde vie de prière, d'abord d'humilité face à Dieu, parce que c'est un tout, vous voyez, c'est un tout, la vie chrétienne. Il ne s'agit pas de prier seulement quand ça va mal, hein, mais cette humilité face à Dieu, on l'apprend dans les sacrements, dans l'Eucharistie, on l'apprend dans la vie de prière au quotidien, on l'apprend dans le sacrement de pénitence. Et quand on n'a pas eu cet exercice régulier de l'humilité, qui est l'autre mot de l'amour, eh bien, c'est vrai que c'est difficile quand ça va mal, surtout quand ça va mal, de le pratiquer, parce qu'il faut commencer à le pratiquer avant. Il y a une partie, on peut dire, préventive à la blessure et à la séparation, c'est tout de suite de pratiquer l'humilité, hein, et que le soleil ne se couche pas sur ta colère, hein, mais au contraire, chaque fois, chaque jour, se demander pardon. Comme ça, quand il y aura vraiment quelque chose d'important et de difficile et de dur à pardonner, l'habitude du cœur aura été forgée pour pouvoir aller à la rencontre de l'autre et ensemble se mettre à genoux et supplier la grâce et que l'amour circule à nouveau. Alors c'est bien de se redire ces choses toutes simples, mais en même temps c'est bien de pouvoir ensemble à s'affirmer pauvre, mais comme une béatitude, hein, pas comme une dépréciation de soi, non, comme une béatitude, hein, comme le Seigneur lui-même qui nous donne de partager son royaume. Réconcilier, se réconcilier, on disait, demande une certaine humilité, et donc de dire aussi qu'il n'y a pas une plénitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est accepter de porter ensemble une difficulté. Ce n'est pas parce qu'après la réconciliation que tout sera parfait. Ça, c'est évident. Et ce serait illusoire que de penser, de croire à une vie de famille ou de couple sans difficulté. Il y a des tas de gens qui se figurent que les autres, ça va beaucoup mieux. Et qu'au fond, il n'y a qu'eux qui se sont dans la panade, etc. quand on connaît les personnes, on voit bien que chacun a ses difficultés, chacun a son chemin de réconciliation, chacun a sa part de souffrance, au-delà même de l'apparence extérieure. C'est donc accepter ensemble de porter la croix du Seigneur. Et si on accepte ensemble de porter cette croix, alors là aussi, la pauvreté qu'on aura reconnue ensemble, elle sera là pour servir la vie. Elle sera là pour développer l'amour. Mais et c'est vrai qu'on est dans une société de consommation. Alors je fais le lien, je ne sais pas si vous le faites vous aussi, mais je fais le lien. Le tout, tout de suite, on ne supporte pas d'attendre, on ne supporte pas d'avoir une gêne, on ne supporte pas la patience, on ne supporte pas le manque. Il faut que tout soit tomblé tout de suite. Et donc, on l'applique, ce qu'on applique au niveau matériel, comme on est une unité entre corps et âme, évidemment, on l'applique aussi au niveau des relations. Et donc, dès qu'il y a une difficulté, eh bien, on s'estime lésé, on dit, bon... c'est pas ça que j'avais choisi au départ, etc. Mais non, dans la réalité humaine, la difficulté s'inscrit comme un aspect tout à fait normal de la relation. Et ne nous étonnons pas qu'il y ait ces difficultés. Donc, choisir la réconciliation, c'est dire, on va porter ensemble cette difficulté, on va porter ensemble ce poids, peut-être cette souffrance, on va la porter ensemble. Il n'y a pas de communion sans porter ensemble souvent une même souffrance. Mais si on la porte ensemble, ben tout est possible. On sait bien qu'une souffrance portée ensemble est une souffrance qui est divisée par deux. C'est aussi redire au Seigneur qu'on est prêt à porter une partie de sa croix et qu'on se met à son école pour pouvoir rentrer dans ce chemin de réconciliation. Un autre point aussi qui est important, c'est de dire que le pardon se voit aussi dans le fait de retrouver la confiance. C'est là où, au fond, que l'on voit qu'il y a une vraie, un peu le baromètre, si on peut dire, de la réconciliation. La confiance est retrouvée. L'amour circule à nouveau entre nous. Cette confiance, elle se construit, cette confiance, petit à petit, elle se met en marche, mais c'est aussi par la prière. C'est demander, au fond, un amour qui soit plus fort que l'offense, que vaincre le mal par le bien, comme appelle Jean-Paul II en ce début d'année 2005, dans son message pour la paix, être vainqueur du mal par le bien. Croire que chaque acte d'amour a une portée éternelle. Croire que chaque acte d'amour est capable de vaincre les plus grandes résistances. Mais ça, ce n'est pas simplement une question humaine. Vous vous imaginez bien, on n'en est pas capable humainement. C'est parce qu'on fait mémoire de l'amour de Jésus pour nous, qui nous a ouvert les portes de la vie, qu'à sa suite, en s'appuyant sur lui, greffé sur lui par le baptême, on communie à lui dans l'Eucharistie, on demande cette grâce d'aimer à la manière de Dieu. Alors, même si c'est divin, c'est vrai, cette attitude de pardon et que l'offense ne m'arrête pas dans cette marche d'amour, mais c'est aussi cette attitude intérieure de confiance, d'abord face à Dieu, parce que tout s'enracine là. Que ces chemins ne sont pas nos chemins, que ces pensées ne sont pas nos pensées, et qu'il a bien, bien des tours, j'allais dire, dans son sac, pour pouvoir, quand on le désire et quand on le supplie, refaire naître la confiance entre un homme et une femme, entre des parents et des enfants, et que bien souvent c'est avec la patience et en ayant porté le poids du jour que cette confiance va pouvoir peu à peu s'éclore. Un autre point aussi qui me paraît important de souligner, c'est qu'on sort d'une crise par le haut. Qu'est-ce que ça veut dire? En général, que ce soit dans la famille ou que ce soit dans le couple, ou que ce soit en communauté, ou que ce soit dans n'importe quelle circonstance, on sort d'une crise par le haut, c'est-à-dire en faisant mémoire de l'amour qui nous unit, en faisant mémoire de la communion qui est déjà là présente. Parce que sinon, si on n'a pas cette attitude transcendante et cette écoute, cette attitude d'écoute du Seigneur, eh bien, on est réduit à deux individualités qui se bagarrent, et moi j'ai raison, et toi tu as tort, et tu m'as fait ceci, et tu m'as fait cela. En se mettant ensemble à l'écoute de la parole du Seigneur, on découvre que, au fond, cette union, elle se fait en Dieu. Je fais mémoire de l'amour que j'ai pour toi. Fais-moi mémoire de l'amour que j'ai pour toi. Je ne peux pas dire que je n'ai pas eu la certitude à un moment donné de ma vie que je ne t'ai pas aimé de tout mon cœur. Hein? C'est dire ça entre couples, en couple. Ça c'est... Vous vous êtes choisis. Hein? Vous vous êtes choisis. Et que l'amour de votre couple, c'est la joie de vos enfants. Et je ne peux pas dire que je ne l'ai pas aimé. Et de même avec le Seigneur, quand parfois on est dans une attitude de révolte avec le Seigneur et qu'on en a envie de tout balader, tout envoyer aux orties, je ne peux pas dire que je ne l'ai pas rencontré. Je ne peux pas dire qu'il ne m'a pas aimé. Je ne peux pas dire que je n'ai pas eu cette certitude de son amour. Alors, quand on refait mémoire, hein, notre Dieu n'est pas un Dieu des amnésiques, mais un Dieu de ceux qui font mémoire, à tel point que l'Eucharistie, c'est cette mémoriale, on refait mémoire de l'amour du Seigneur et de sa réconciliation, de la passion, de la mort et de la résurrection. C'est ça l'Eucharistie, cette mémoire, ce mémorial. On refait mémoire, mais dans le sens biblique du terme faire mémoire, c'est-à-dire rendre présent une grâce du passé. Pour l'homme de la Bible, la mémoire est la faculté du présent, c'est pas la faculté du passé. Et c'est tout le sens de la liturgie. On refait mémoire parce qu'on revit la grâce du mystère que l'on célèbre. Et refaire mémoire de l'amour qui vous unit, hommes et femmes, c'est revivre la grâce de l'amour que vous avez exprimé par votre oui devant l'autel. Vous avez, dans le sacrement de mariage, un trésor de grâce. Puisez abondamment dans ce trésor de grâce, hein, mais puisez ensemble dans ce trésor de grâce. Un autre point aussi sur lequel on peut méditer, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a eu blessure que je ne peux pas construire ma famille. S'il fallait être tout à fait indemne pour commencer à construire quelque chose, mais on ne ferait rien, on s'arrêterait en chemin. N'oublions pas que le Seigneur ressuscité apparaît aux apôtres avec ses plaies, avec les traces de sa passion, et c'est un grand encouragement pour nous. C'est pas comme s'il ne s'était rien passé. Mais ces plaies, elles deviennent lumineuses. Et c'est ça la grâce du Seigneur, de rendre nos plaies lumineuses, de son amour à lui, de sa lumière à lui. Alors, on est blessé l'un et l'autre, soit parce qu'on s'est blessé, soit parce qu'on a vu ce matin, où on a été blessé par un tiers, ou on est blessé depuis... de différentes manières, je ne reviens pas sur ces questions-là. Mais, au fond... Une des formes du pardon, c'est dire « je continue d'avancer malgré la blessure et malgré l'offense ». Donc un des signes de cette réconciliation, c'est de redire au fond que même si je suis blessé, ben j'avance et je construis quelque chose et que... Même la souffrance peut montrer, c'est dans la foi qu'on le vit, hein, à la lumière de la résurrection du Seigneur, la souffrance peut montrer un chemin pour mon couple ou ma famille, un chemin de fécondité auquel je n'avais pas pensé. Et on le sait bien, ce n'est pas le moment même où on le découvre, ce chemin de fécondité, Mais souvent, en regardant en arrière dans nos vies, on est passé par telle chose, telle autre, et on se dit au fond, oui, le Seigneur était là présent et il m'accompagnait. Une autre chose aussi sur laquelle je me permets d'insister, c'est au fond que la réconciliation, elle est toujours un, comment on peut dire ça, une acceptation de la réalité de l'autre tel qu'il est, et non pas tel qu'on l'a rêvé d'être. Et donc c'est ça qui nous fait passer du projet à la promesse, c'est-à-dire du projet, on avait un projet de couple, on avait un projet de famille, et puis bon, patatras, il y a telle ou telle chose qui ne colle pas. La réconciliation, c'est rechoisir l'autre, redire oui aux circonstances particulières de notre couple, de notre famille, redire un oui de confiance et un oui qui fait que on va pouvoir redémarrer ensemble. Mais c'est là où il y a une liberté qui se joue. Hein. Il faut le vouloir, se réconcilier, il faut le vouloir. Sinon, hein, et on a bien vu que l'amour, il est dans la volonté. Hein, cette décision, est-ce qu'on veut que ça marche, est-ce qu'on veut pas que ça marche? Et que bien souvent, les échecs de nos réconciliations, c'est qu'on ne veut pas que ça marche. Hein, c'est s'accéder à une autre réalité que celle qu'on avait prévue, et donc adhérer à la promesse que Dieu nous donne dans cette réalité, alors qu'on avait pensé à tel ou tel projet. Pour terminer notre méditation donc sur la réconciliation dans le couple et la famille, on peut aussi penser que le mariage est aussi une source de guérison. Et les enfants sont aussi un des instruments que parfois peut utiliser le Seigneur pour nous réconcilier et être source et être un baume pour notre vie. J'ai un tas d'exemples qui le montrent, hein, de voir comment, au fond, à travers le mariage, il y a cette expérience de l'amour, d'être aimé pour ce que l'on est, d'un mariage qui est réussi. Eh bien, c'est une réconciliation face à peut-être l'amour que l'on n'a pas eu dans sa propre famille. Avec sa propre enfance, avec ses propres difficultés, comme on l'a évoqué ce matin, c'est parce que ça me réouvre des portes que je n'avais pas vues. Donc, de voir au fond que ce mariage, ce couple, c'est aussi une école de guérison, une école de réconciliation. De même les enfants, c'est extraordinaire comment les enfants peuvent, avec leur fraîcheur, parfois nous réouvrir des portes qu'on avait fermées, nous venir toucher en nous l'enfant qui dort et venir aussi le guérir et sans s'en rendre compte. Alors, c'est sur cette note que j'aimerais terminer, hein, cette méditation sur la réconciliation dans le couple et dans la famille. Hein, c'est cette certitude que le Seigneur est là présent à chaque étape, à la reconnaissance de la blessure, dans le dialogue, hein, dans la reconnaissance d'être des pauvres ensemble, hein, dans la confiance qui est retrouvée. Hein, c'est à chaque étape que le Seigneur est là présent. Pour ça, ne nous décourageons pas, mais au contraire, hein, mettons notre confiance dans le Seigneur et redisons, hein, avec confiance cette prière du Notre Père que le Seigneur nous a enseigné pour nous apprendre à demander cette réconciliation, cette miséricorde. Amen.